pas mal d'absents ce soir, mais certains parmi les meilleurs sont là. Je ne sais pas comment il faut le formuler, ça. Oui. Alors, oui, on a reçu pas mal de procurations, ce qui signifie pas mal d'absents. Christiane Mollard, qui me donne procuration. Lucie Dalpalu à Renaud Beretti, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va nous rejoindre. Nathalie Murguet à Marina Ferrari. Georges Buisson à Isabelle Moreau-Jouanet. Soukaina Bounik à Claudie Fraisse. Marie-Alix Bourbiot à Michel Frugier. Fatia Brunetti à André Jiménez, jusqu'à 20h où elle devrait arriver. Et ensuite, André, tu as le pouvoir de Marion Gerlot. Pardon ? Ben oui, c'est ton pouvoir augmente, attention. Il faut faire attention. Je vous propose de rentrer dans notre ordre du jour avec... le premier rapport traditionnel des décisions que j'ai prises depuis notre dernier conseil, en fonction, bien sûr, des délégations que vous m'avez accordées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Pas de questions particulières ? Je vous remercie. Renaud Beretti devait nous présenter le second, donc je vous propose d'attendre qu'il soit là pour le présenter. Et on va donner tout de suite la parole à Nicolas Poyeux, ici présent, qui est un grand spécialiste de la vente de concessions funéraires, et qui va nous expliquer comment on fait pour en vendre 7.
Ça marche. Merci, Monsieur le Maire. Administration générale, donc, par délibération numéro 2, en date du 29 juin 2015, le Conseil municipal a accepté le principe de la cession des monuments, objets et caveaux funéraires équipés d'un caveau, redevenu propriété de la ville après expiration de la procédure de reprise. A autorisé le maire à faire expertiser les 7 concessions actuellement répertoriées pour en fixer le prix. L'entreprise de marbrerie, maçonnerie Tona, a communiqué les résultats de son expertise qui évalue le prix de chacune des concessions. Un tableau, on s'en fout. France Domaine a émis un avis favorable à notre proposition de retenir l'évaluation faite par l'expert qui correspond d'ailleurs au prix du marché. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport qui vient de lui être présenté et de charger le maire ou son représentant de le mettre en application.
Merci Nicolas. Oui, c'est des anciennes concessions en fait, hein, qu'on a récupérées et que donc on va remettre sur le marché. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions particulières ? Pas d'opposition ni abstention ? Je vous remercie. Avant de donner la parole à Renaud pour le point 2 peut-être et pour le laisser atterrir, on propose à Marina de nous traiter du point 4 qui concerne la vente d'un terrain à vocation industrielle. Marina.
Merci Monsieur le Maire, bonsoir chers collègues. Donc il s'agit de revenir sur la vente du terrain industriel 6 routes de Puny, dit terrain de Chevaline. Nous avions déjà abordé ce sujet lors d'un précédent conseil. Donc vous savez que la commune est propriétaire d'une propriété non bâtie, d'une contenance d'environ 17 000 m2, et que donc par délibération du 29 juin 2015, notre conseil a autorisé le maire ou son représentant à signer une promesse synalagmatique de vente, puis un acte authentique de vente au profit de CCR, donc pour un montant de 1 million d'euros hors taxe, soit 1 200 000 euros TTC. Donc l'assujettissement à la TVA n'est cependant pas à retenir. En effet, la ville agit dans le cadre d'un acte de disposition d'une de ses propriétés et ne s'inscrit pas dans une activité économique donnant lieu à un assujettissement à la TVA. On a vu ça d'ailleurs en commission des finances et donc on a eu l'avis des services. Il convient en conséquence, tant pour le comptable assignataire de la collectivité que pour le notaire chargé de rédiger l'acte authentique, de préciser que le prix de vente est de 1 million net sans assujettissement à la TVA.
Merci Marina. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Pas de questions particulières, pas d'opposition ni abstention. Je vous remercie. Renaud, est-ce que on peut revenir en arrière dans l'ordre du jour pour traiter le point 2 sur lequel on t'a laissé le soin de nous le présenter ?
Merci Monsieur le Maire. Il s'agit d'une dénomination d'un équipement municipal qui relève, pour rappel, du Conseil municipal selon un article du Code général des collectivités territoriales, et en l'occurrence celui de baptiser le Centre culturel et des congrès, le CCC, du nom d'André Grosjean, qui, vous le savez, nous a quittés cette année et qui a été maire, s'il est besoin de le rappeler, de notre ville de 1969 à 1989 et de 1995 après une interruption à 2001, soit plus de 21 ans à la tête de la commune comme premier magistrat, mais aussi conseiller général de la Savoie de 1963 à 1985, sans oublier bien sûr le premier mandat de maire qu'il avait rempli dans une commune voisine. Durant ses mandats de maire, André Grosjean a doté la ville de nombreuses réalisations très marquantes au sens des équipements publics collectifs, le développement des équipements sportifs, la réfection de la piste d'athlétisme, la construction de la piscine municipale et en particulier la construction d'un équipement qui n'existait pas, le centre des congrès, en plein cœur de ville, à proximité immédiate du parc thermal. Cet équipement a été inauguré en 1977, et, parce que c'est vrai que nous aurions pu proposer une voirie, mais il n'y a pas de voirie nouvelle d'une envergure à sa mesure, et c'est sans doute le centre des congrès, l'œuvre la plus marquante d'André Grosjean, à laquelle il était d'ailleurs très attaché, qui a contribué à l'essor touristique de la ville en complément du thermalisme. André Grosjean qui souhaitait diversifier et renforcer l'attractivité de notre ville. À cet effet, pour lui rendre hommage, en sa qualité de maire honoraire d'Aix-les-Bains, il vous est proposé de donner son nom au Centre culturel et des congrès, donc le CCC, qui s'appellera désormais, si vous le souhaitez, Centre culturel et des congrès André Grosjean. Je profite également de cette proposition d'appellation sur une suggestion du maire de baptiser par la même occasion l'auditorium de ce centre culturel et des congrès du nom de Robert Varet, qui nous a aussi quittés dans cette année qui a été douloureuse à bien des égards, avec beaucoup de personnalités illustres qui ont marqué la vie locale qui nous ont quittés. Robert Varet qui a été longtemps le président du comité des fêtes et qui a contribué par sa personnalité, qui était très dynamique tout en étant discrète, à l'animation de la ville et à sa renommée. Donc voilà une proposition de double baptême, monsieur le maire et chers collègues, pour le Centre des congrès culturels et des congrès.
Merci Renaud. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Oui, André.
Une remarque. Je voterai bien sûr contre, vous vous en doutez, non pas à titre personnel, à cause des sévices que j'ai subis pendant 27 ans d'employé municipal, mais simplement pour ma ville, parce que je trouve que ce nom qu'on pourrait lui donner manque d'ambition. Certains ont choisi Malraux, Pompidou, etc., etc. On aurait pu, à Aix-les-Bains, choisir des gens qui ont une attache avec Aix-les-Bains, comme Lionel Terray, Claude Lorius, qui va sortir un film remarquable d'ici peu, et quitte à mettre un André Dussolier, qui a aussi des attaches. Donc, j'y m'imagine quelqu'un, un étranger, qui vient dans la ville et qui dit « Who is André Grosjean ?» Et l'autre lui répond « Look at Google !» Et là, on découvre son palmarès. Voilà, messieurs, dames, ma remarque.
Merci André. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Non, pas d'autres remarques ou questions. Qui s'oppose à cette double dénomination ? Donc André Grosjean pour le Palais des Congrès et Robert Varet pour le Grand Auditorium. Pas d'opposition ? Si, excuse-moi, deux oppositions. Ça te va ? D'accord, alors peut-être on le fait en deux temps. Sur le Centre des Congrès, André Grosjean, donc deux oppositions, pas d'abstention. Donc il est adopté sur la dénomination du Grand Auditorium au nom de Robert Varet. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Il en est ainsi décidé. On passe la parole à Christelle Anciot pour la session de deux garages comme chemin de Corsuet.
Christelle. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Affaires foncières, donc session de garage située chemin de Corsuet. La commune est propriétaire d'un tènement immobilier desservi par le chemin de Corsuet. Il est cadastré section AC numéro 23 pour 24 mètres carrés, AC numéro 24 pour 27 mètres carrés, AC numéro 25 pour 20 mètres carrés, qui correspondent aux emprises au sol de trois garages couverts, et AC numéro 279 pour 276 mètres carrés, terrain de dépendance. La commune n'a aucun intérêt à conserver ce bien, qui n'est utile ni à elle ni à des associations. Le conseil municipal est invité à autoriser une cession du tènement pour 17 000 euros au profit de M. Christophe Ponson.
Merci Christelle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette affaire de garage à Corsuet ? Oui, Véronique ? Approchez peut-être la base, parce que sinon...
Oui, moi j'avais juste une remarque, c'était concernant le prix. Ça me paraît vraiment très très peu pour une surface quand même qui fait 71 mètres carrés. Je suis sûre qu'à ce prix-là, il y a beaucoup d'Aixois qui auraient aimé l'acheter.
Bah, ça
on
dépend.
Peut toujours
ça
en faire quelque chose d'une ouais. surface.
Ça dépend où sont situés les garages. Je crois que c'est conforme à l'estimation des domaines, c'est-à-dire des services fiscaux. Donc voilà, et encore une fois, ce serait en centre-ville, évidemment, la remarque serait beaucoup plus importante. Pas d'autres remarques ou questions? Non, pas d'opposition? Si, peut-être, opposition? Non, pas d'opposition? Deux oppositions? Pas d'abstention? Je vous remercie. Il est donc ainsi décidé. Isabelle Moreau-Joannet, tu nous parles de la session du 2 boulevard de la Roche-du-Roi. Nous rendis un petit mot. Isabelle.
Oui. Par une délibération du 26 septembre 2014, la vente pour 680 000 euros de la Villa Russie a été décidée par le conseil municipal au profit de la SCCV Alter Ego 4 ou à toute autre personne s'y substituant. Une condition suspensive tenant à l'obtention du permis de construire, dont le délai réglementaire d'instruction est de 6 mois, avait été demandé. Il avait été prévu que la ville reprendra toute sa liberté si un acte authentique de vente n'intervient pas avant le 31 décembre 2015. Or, l'obtention du permis de construire est retardée par la modification du plan local d'urbanisme de la commune, ce dernier étant instruit en fonction des nouvelles règles, mais ne pouvant être délivré avant leur approbation par le conseil communautaire de la CALB, compétente en matière d'élaboration de documents d'urbanisme. Cette approbation sera portée à l'ordre du jour du Conseil communautaire du 24 septembre 2015. Compte tenu de cette circonstance, il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération du 24 septembre 2014 sur ce point. Il s'agit d'abroger sa disposition relative à la date limite de signature d'acte au 31 décembre 2015 pour la remplacer par une nouvelle prévoyant une date limite de signature d'acte authentique au lundi 29 février 2016.
Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette prorogation? Pas de questions. Ça vaut d'ailleurs, Marina, aussi pour le rapport que tu nous as présenté. Hein, bien prévoir. Je préfère qu'on prévoie des dates limites de validité de nos décisions de cession, quitte à redélibérer, plutôt que de se trouver embringué dans des ventes où on peut plus faire marche arrière. Hein. Ok, donc sur ce rapport, pas d'opposition ni abstention. Je vous remercie. Isabelle, toujours, tu as un petit bout à rajouter, toujours boulevard de la Roche-du-Roi.
La commune est propriétaire d'une bande de terrain sans utilité pour la ville, orientée est-ouest, d'une surface d'environ 100 mètres carrés. Détachement de la parcelle CE373, attenant au côté nord de la passerelle cadastrée CE sous le numéro 44 boulevard de la Roche-du-Roi. Il est en conséquence de l'intérêt de la collectivité de vendre ce terrain à l'aménageur de la parcelle cadastré CE sous le numéro 44, programme immobilier Villa Caterina, qui est attenante à la propriété communale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de ce terrain appartenant au privé communal pour un prix de 15 000 euros.
Domaine privé communal, effectivement, il manque un mot. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions particulières, c'est la même opération, hein, pas d'opposition ni abstention. Je vous remercie. Marie-Pierre Montoro-Sadou, tu nous parles de la cession d'intendement, cette fois-ci, boulevard Barrier.
Oui, en effet. Donc la commune, elle est propriétaire d'une bande de terrain qui n'a pas d'utilité pour la ville. Cette bande de terrain a une surface d'environ 133 mètres carrés. Elle est attenante à une parcelle, celle qui est inscrite au cadastre BD sous le numéro 60. 698 avenue du Petit Port, en face donc de l'aquarium. Et il est proposé au conseil municipal d'approuver cette cession pour un prix de 5 300 euros, conformément à l'estimation de France, du service France Domaine, à Madame et Monsieur Vignier, propriétaire de la parcelle attenante.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions particulières, pas d'opposition ni abstention? Je vous remercie. Marie-Pierre, toujours. Cette fois-ci, on achète un terrain chemin de la baie.
Oui, il vous est proposé l'acquisition d'un terrain chemin de la baie. La propriété AH57, qui fait 358 mètres carrés. C'est une propriété de Madame et Monsieur Claude David. et elle serait intéressante pour la ville afin de créer quelques places de stationnement et permettre aussi à la ville de s'approprier les berges en rive droite du nom de la baie. Donc la valeur du tènement a été estimée à 4 000 euros par le service France Domaine. Donc il vous est proposé de l'acheter à ce montant-là.
Voilà, merci. Des petites choses, mais qui sont utiles, souvent des petits ajustements dans nos quartiers. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Non, pas de questions, pas d'opposition ni abstention. Je vous remercie. Marina, à nouveau, tu voudrais nous proposer d'exonérer de droits de voirie suite à des travaux quelques commerces sexuels.
Oui, merci Monsieur le maire. Nous avons réalisé, comme vous le savez, des travaux sur l'avenue du Grand Port et l'avenue de Verdun, qui ont eu notamment pour conséquence la baisse de la fréquentation des commerces riverains qui ont été assez lourdement impactés, en tout cas pour le Grand Port, par ces travaux. Donc les élus sont donc invités à décider l'exonération des droits de voirie pour l'année 2015 pour un montant total pour les deux zones de 6 533,12 euros. Et vous avez le tableau qui est annexé pour le détail des commerces concernés. Merci.
Voilà, une disposition qu'on essaye de prendre. Souvent, les commerçants, quand il y a des gros travaux, sont pénalisés. Ils nous demandent si on ne peut pas faire quelque chose, un effort sur la fiscalité ou autre. On n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de dispositions possibles. Bon, sur les droits de voirie, on peut le faire. Donc, vous voyez que ça représente des montants modiques pour chacun d'eux. Mais voilà, c'est un geste qu'on vous propose de faire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Serge ?
Oui, j'en avais déjà parlé. Bonsoir à tout le monde. J'en avais déjà parlé à la commission des finances. Rue Vaugelas, où il y a eu le Bachelard, qui a fait des travaux pendant mal de temps. En ce moment, on refait comme ça. Il y a un commerce qui en souffre énormément, c'est Emoneto. Seulement, il paraît-il, n'a pas fait les démarches, mais je pense qu'on pourrait faire un geste en son égard.
Bah écoute, pourquoi pas, dis-lui qu'il nous passe le dossier.
Je vais lui dire, mais avant, je vous en parle.
On va regarder ça. Non, c'est vrai que c'est tous ces travaux, gros travaux, sont pénalisants pour les commerces qui sont à proximité. Bon, c'est des petits gestes qu'on peut faire, me semble-t-il. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Pas d'autres remarques ? Pas d'opposition ni abstention ? Super, je vous remercie. Jean-Jacques, tu nous présentes le fameux tableau des emplois permanents, toujours modifié.
Toujours modifié. Alors cette fois-ci, principalement pour tenir compte de la réforme des rythmes scolaires qui entre dans sa deuxième année, et dont le prolongement des orientations d'économie et de la masse salariale est dans l'optique de fidéliser les personnels, le nombre de postes d'animateurs des accueils de loisirs a été réduit et les missions habituellement confiées à des saisonniers ou à des contractuels ont été proposées à des agents occupant déjà des fonctions d'animateurs de restaurants scolaires. Ceux-ci voient ainsi leur quotité de temps de travail augmenter. Le deuxième point majeur, c'est la création d'un poste, le 643, correspondant à la création de postes de médiateurs au sein du service de politique de la ville. Celui-ci est rendu nécessaire par la fin du financement par l'État d'un contrat d'adulte relais. La collectivité souhaite ainsi pouvoir inscrire cette fonction de médiation dans la durée, dans le cadre de la nouvelle politique qu'elle est en train de mettre en œuvre dans les quartiers, en recrutant des professionnels expérimentés. Les autres modifications correspondant à des remplacements d'agents parti en retraite pour la fin. Voilà, monsieur le maire.
Merci Jean-Jacques. Des questions sur ce tableau, ces modifications ? Pas de questions ? Pas d'opposition ni abstention ? Super, je vous remercie. On passe au rapport numéro 12 que va nous présenter Jean-Marc Vial, qui suit en particulier le patrimoine municipal, avec cette demande conforme à la loi de prorogation avec le dépôt de l'agenda accessibilité programmée. Jean-Marc.
Merci, monsieur le maire. L'article L111-7 du Code de la construction et de l'habitation impose l'élaboration d'un agenda d'accessibilité programmé pour les établissements recevant du public avant le 27 septembre 2015. À ce jour, le patrimoine de la ville est partiellement inaccessible. Cependant, face à des difficultés techniques, importance du patrimoine, multiplicité des statuts des occupants, nécessité de maintien du service public, pour élaborer cet agenda avant la date butoir, la ville souhaite différer sa remise de 12 mois. En effet, les articles L111-7.6 et R111-19-42 du dit code autorisent la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmé. Après étude par la commission municipale numéro 3 chargée de l'aménagement urbain de l'environnement et de la qualité de la vie quotidienne réunie le 14 septembre 2015, Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter la demande de prorogation de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Pas de questions particulières, ni opposition, ni abstention ? Magnifique. Pascal Peller, tu nous proposes sur l'espace PUER où il y a eu pas mal de malfaçons. Tu nous proposes un protocole transactionnel. C'est oui. Pascal qui présente
oui,
ça.
Oui. Vas-y. Oui, monsieur le maire. Donc, suite à un constat donc, en effet, de malfaçon sur la construction de l'espace socioculturel espace PUER, et après conciliation entre le mandataire, l'assureur de l'architecte, l'économiste de la construction et le titulaire du lot concerné, un protocole transactionnel a été établi afin de réparer les dommages et le préjudice subi par la ville. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter les termes du protocole du montant de l'indemnité proposée par les parties déclarées responsables, d'autoriser le maire à signer le protocole transactionnel avec les différentes parties citées ci-dessus, d'autoriser la SAS, mandataire de la ville, à ordonnancer le solde des marchés de travaux réalisés par les entreprises concernées par le présent protocole, et enfin d'autoriser le maire à signer tout document relatif à la reprise des désordres et d'une manière générale tout document relatif à cette affaire.
Merci. Ça pourrait donc être l'épilogue d'un long contentieux ou d'une longue difficulté. Hein. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, André.
Oui, j'en ai parlé en commission des finances. La sécurisation des façades par un filet anti-ballon me semble être, bon, pas très élégant, mais efficace peut-être. Mais il semblerait que des panneaux tombent sans que des ballons soient mis en cause. Donc, il faut juste qu'on s'assure, et je pense que c'est fait par les services, que les mêmes causes ne reproduiront pas les mêmes conséquences.
D'accord, oui, je pense qu'effectivement, nos experts se sont assurés de tout ça. Cela dit, Marie-Pierre, est-ce qu'on est vraiment prêt sur ce protocole ou est-ce qu'il y a encore des questions à régler ?
En effet, j'avais sollicité que ce rapport soit reporté au prochain conseil municipal, comme il avait pu être débattu en troisième commission, puisqu'il s'agit en fait d'un protocole qui a été initié il y a déjà de plusieurs années. Et à ce jour, donc, on l'a su très récemment, l'une des entreprises voulait revoir certaines clauses. Donc, je préférais que ce soit revu, que tout soit ficelé avant que le conseil municipal ait à délibérer.
À ce moment-là,
sur
si on le revoit, il faut regarder la question que pose André pour s'assurer qu'on est bien effectivement.
Ça doit prendre en compte cela, effectivement.
D'accord. OK, donc on retire cette question de l'ordre du jour et on reviendra probablement au prochain conseil, Marie, là-dessus.
Ben, j'espère effectivement qu'on se mette d'accord avec les entreprises d'ici
d'accord.
Le prochain conseil.
Profitez-en donc bien pour purger la question que pose André.
Tout à fait.
Christelle, à nouveau, sur la journée de l'écomobilité, demande de subvention, je crois, Christelle.
Oui, demande de subvention et autorisation de signature. Le 15 avril 2015, s'est tenue sur la place de l'Hôtel de Ville la manifestation annuelle sur l'écomobilité, avec un accent particulier sur la prévention des risques routiers, avec l'aide et la participation de la préfecture de Savoie et du conseil départemental. L'État et le département se proposent d'attribuer une aide financière de 900 euros à la commune pour cette opération 2015, qui s'intègre dans le plan départemental d'action de sécurité routière. Après étude par les commissions municipales numéro 3 et numéro 1 réunies respectivement les 22 et 14 septembre 2015, il est proposé au conseil municipal de confirmer la sollicitation de cette aide pour l'année 2015, solliciter cette aide pour l'opération 2016, d'autoriser le maire à signer la convention d'attribution et plus globalement tout document se rapportant à cette action.
Très bien. On peut attendre 900 euros, c'est ça ? Bon. Pas énorme, mais déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Pas de questions, ni opposition, ni abstention ? Super, je vous remercie. On passe à Rénal de Vial qui nous parle de l'élaboration d'un plan de prévention, non pas contre les inondations, mais contre le bruit, Rénal.
Merci, monsieur le maire. Ouais,
parle bien fort.
La directive européenne sur le bruit demande l'établissement de cartes de bruit des transports terrestres et la réalisation d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement, le PPBE. Le préfet de la Savoie souhaite que les gestionnaires des infrastructures engagent l'élaboration des documents prévus par ladite directive. La ville étant concernée par environ 6 km de voirie communale, il est proposé au conseil municipal d'engager les études cartographiques de bruit, l'établissement et la rédaction du PPBE, et d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à cette opération.
Très bien. Donc un nouveau document un peu technocratique malgré tout, mais sûrement très utile, bien entendu. Nos compatriotes sont sensibles au bruit. On va le voir dans les réunions de quartier là à venir. On a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des questions au Conseil ? Non ? Pas de questions, pas d'opposition ni abstention ? Je vous remercie. Thibault, tu nous parles quant à toi d'une demande auprès du SDES pour les travaux dont parlait d'ailleurs Serge tout à l'heure, là au bas de la rue Vaugelas, je crois.
Merci Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Dans le cadre du réaménagement du carrefour de la rue des Fontaines et de la rue Vaugelas, la ville envisage la rénovation des canalisations de cette dernière en procédant à l'enfouissement des réseaux d'éclairage public, de télécommunications et d'électricité. Les travaux d'enfouissement du réseau de distribution électrique relevant de la compétence du syndicat départemental d'énergie de la Savoie, le SDES, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention de comaîtrise d'ouvrage avec le SDES et de solliciter auprès de ce même organisme une participation financière relative à l'amélioration esthétique des ouvrages concédés à ERDF.
Très bien, merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Serge ?
Oui, bien évidemment, je vais vous reparler de ce carrefour. D'abord, il est très bien réalisé, c'est bien fait. Mais il y a des très grands trottoirs. Il va y avoir très, très grands trottoirs. Et je me demande s'il ne serait pas bon d'envisager du fleurissement pour éviter que ces trottoirs servent de parking, parce qu'il y a largement de quoi mettre des fourgons à gogo.
D'accord. Bah, écoute, regardons. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu en termes d'aménagement paysager ou pas à cet endroit-là, mais on transmettra à Daniel Caille et Maurice Cano voir ce qui est faisable ou non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas d'autres questions ? Pas d'opposition ni abstention ? Super. On demande à notre ami Jean-Claude Cagnon, qui est un spécialiste des forêts communales, de nous parler de la campagne de coupe d'affouage 2015-2016. Jean-Claude.
Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des coupes de bois à asseoir en forêt communale d'Aix-Corsuet, relevant du régime forestier et prévu au plan d'aménagement en cours, il est demandé à l'Office national des forêts de procéder au martelage des bois situés sur les parcelles suivantes. Parcelle numéro 3A, pour un volume estimé à 120 m3. Parcelles diverses, exploitation des bois en Chablis, pour un volume estimé à 80 m3. Ces coupes sont destinées à l'affouage et les bois sont délivrés sur pied. Les trois garants désignés pour ces coupes sont Didier Lestra, président du syndicat des affouagistes de Corsuet, Patrick Tabuy, entrepreneur de coupe, Alain Girard, secrétaire du syndicat des affouagistes de Corsuet. Après étude par la commission municipale numéro 3, réunie le 14 septembre 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des opérations de coupe et de délivrance du bois en forêt communale relevant du régime forestier sur les parcelles citées ci-dessus, d'autoriser le maire et ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces opérations.
Merci Jean-Claude. Des questions sur ce rapport traditionnel, André ? Oui.
Ça peut paraître une plaisanterie, mais est-ce que la personne qui achètera les trois garages montés de Corsuet aura droit à une coupe d'affouage ? Parce qu'auquel cas, moi je suis amateur de Chablis.
Pas sûr qu'on parle du même.
Si, c'est du bois qui brûle très bien. Ouais.
Ok, en dehors de cette remarque, oui, Jean-Claude.
Non, ça se transmet, je veux dire. Est-ce que le nouveau propriétaire a droit aux coupes, quoi ?
Mais le nouveau propriétaire habite au-dessus. Il peut déjà être affouagiste.
Cumuleur.
Merci, pas d'autres questions, ni opposition, ni abstention. Merci beaucoup. Nicolas Verriot, tu nous parles d'une convention de partenariat dans le domaine du numérique.
Oui, merci monsieur le maire. Donc cette délibération a pour l'objet de renouveler la convention qui cadre le fonctionnement de l'espace public numérique de la ville. Pour rappel, cela fait maintenant 3 ans que l'espace public numérique est ouvert. En 3 ans, il a accueilli plus de 4300 usagers. En libre consultation, 620 personnes se sont formées aussi au numérique par l'intermédiaire du catalogue de formation qui est mise à disposition par l'EPN. Donc la convention maintient le fonctionnement de l'EPN tel qu'il fonctionne aujourd'hui, grâce notamment à l'assistance de la mission locale qui lui fournit le personnel nécessaire, tant au niveau de la gestion de projet que de l'accueil. Cependant, cette convention fixe désormais à l'EPN une mission supplémentaire de pôle ressources sur l'ensemble du territoire de la CALB, qui en contrepartie accepte le principe d'un premier financement annuel de 4 000 euros. Pour mémoire, le PN est actuellement financé à hauteur de 60% par le FEDER dans le cadre du programme urbain intégré et le sera pour les trois prochaines années dans le cadre de l'enveloppe européenne qui prend la suite, l'investissement territorial intégré. Donc la convention renouvelle à ce titre le positionnement de l'EPN au service des quartiers dans le cadre des futurs dispositifs prévus au contrat de ville 2015-2018. Et il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention. Merci.
Merci Nicolas. Des questions à Nicolas sur cette affaire? Pas de questions particulières, pas d'opposition ni abstention. Génial. Evelyne Forner-Cacciator qui nous parle d'attribution de subventions à des associations. Evelyne.
Oui, monsieur le maire. Il s'agit donc d'une attribution des subventions 2015 aux associations et autres bénéficiaires, conformément aux dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, article L2311-7, et après examen par la commission communale numéro 1, réunie le 22 septembre 2015. Il est proposé d'adopter l'attribution aux associations et personnes physiques et autres bénéficiaires des subventions mentionnées dans le tableau joint à la délibération. Deuxièmement, subvention pour le championnat d'Europe et du monde jeune de jeux d'échecs. Il est proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 euros au profit de M. Didier Aubert, au titre des frais de participation aux deux compétitions, championnat d'Europe en Croatie et championnat du monde en Grèce, auxquelles sa fille Estée va participer.
Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux points du rapport association? Pas de questions particulières, pas d'opposition ni abstention. Merci beaucoup. Renaud Beretti va nous présenter quelques mesures comptables, Renaud.
Oui, en fait, il y en a de deux sortes, l'une individuelle et l'autre plus collective. La première concerne une annulation d'un titre de recette. C'est déjà une vieille histoire, puisqu'elle date de 2010. On l'a déjà évoqué en commission des finances et en conseil municipal à l'encontre de Mme Adams, dont je précise, avant qu'André Gimenez ne nous le demande, qu'elle n'a pas de rapport avec la famille du même nom est célèbre, parce qu'il a déjà fait le coup en commission des finances, c'est pour ça que je coupe l'herbe sous le pied, avec plaisir. Donc voilà, un titre émis en 2010 de recettes d'un montant de 16 209 euros pour non-réalisation d'une aire de stationnement dans le cadre d'une demande de travaux en vue de l'ouverture d'un restaurant venu d'Annecy, au numéro 3. Il s'avère que ce restaurant n'a pu être exploité que 4 mois, il a dû fermer faute de clientèle, et qu'ensuite ce commerce a été mis en location par cette personne à une société, la société GM, qui elle-même, c'est un peu l'enchaînement des problèmes, vient de se faire mettre en redressement judiciaire en laissant un impayé de 12 000 euros de loyer. Madame Adams, après avoir payé 7 250 euros, donc elle a fait un effort significatif, et je crois Marina même en mettant sa maison en vente, nous doit encore à la ville 8 959 euros. Et compte tenu de cette situation financière particulière et difficile et de l'impossibilité dans laquelle elle se retrouve de recouvrer le solde de loyer que je viens de vous citer, il vous est proposé de réduire le solde de moitié et de ramener la dette définitive de Mme Adams à 4 479 euros et solder cette affaire.
Et, voilà. Et puis tu as un deuxième point sur la taxe de séjour.
Ah oui, et on fait voter les deux tout d'un coup.
Présente les deux, puis on fera les...
Bon. Ben, il y a taxe de séjour d'une part et taxe de séjour forfaitaire. Alors vous avez les tableaux avec. Il n'y a pas de changement à noter concernant la taxe de séjour, sauf pour les non classés avec une légère modification. En revanche, c'est une nouveauté pour la taxe de séjour forfaitaire avec l'introduction d'une tarification pour les aires de camping-car, puisque vous savez que nous avons cette année créé une aire de camping-car pour libérer les espaces qui étaient occupés de manière un peu anarchique. Et réglementer le stationnement en front de lac, et puis pour les ports de plaisance, alors ceci bien sûr en plein accord Michel Frugy avec la CALB, par nuitée sur la base de 4 personnes par anneau d'amarrage, donc ça concerne les personnes qui viennent faire de la plaisance et accoster dans nos ports.
Voilà. Merci Renaud. Est-ce que sur ces deux points, donc la remise de peine, si je puis dire, pour Mme Adams, c'est sur ces fixations de tarifs de taxes de séjour conformes à ceux de l'année dernière, plus 2%, je crois, Michel, hein, c'est ça ce qu'on a mis. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Serge.
Donc c'est l'avenue d'Annecy, un coin qui me tient à cœur. Il y a d'abord une erreur qui est faite dans le rapport, c'est que c'est marqué 3 avenue d'Annecy alors qu'il s'agit du 13 avenue d'Annecy. Parce que je me posais la question, comment pouvait-elle réaliser une aire de stationnement étant donné qu'elle est enclavée entre deux maisons? Bon, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que dans cette rue, une maison que j'ai louée pendant 8 ans où il y avait 6 chambres, aujourd'hui il se vend 7 appartements avec des propriétaires différents qui cherchent comment se garer. Et je voudrais savoir si quand on fait cette opération, on n'est pas aussi taxable de fournir des stationnements.
Alors, pour Madame Adam, c'est précisément parce qu'elle ne pouvait pas créer d'aire de stationnement qu'elle devait payer cette pénalité hein, de 16 000 euros pour non-réalisation d'une aire de stationnement. Et ça ne se passe, la loi ne prévoit pas que ça se passe dans le cas de location.
Non, ce n'est pas de la location, de la vente. C'est-à-dire qu'il y avait une maison avec un propriétaire, maintenant il va y avoir 7 propriétaires.
Oui, mais il n'y a pas de changement d'affectation. Donc je pense qu'il y a pas de, que la loi ne prévoit pas. Mais on va le revérifier pour effectivement te... C'est ça ? Oui, Corinne ? Vas-y.
Effectivement, il y a une déclaration préalable qui a été faite pour modifier des logements sur un nombre déclaratif de logements existants. Donc on ne va pas vérifier à l'intérieur des logements. Donc il n'y a pas de changement de destination.
Oui, voilà. Mais cela dit,
oui, mais c'est pour ça que je m'élève un peu, parce que c'était 6 chambres meublées qui se sont transformées en appartements.
Oui. Oui, mais enfin, en même temps, 6 chambres meublées, c'est aussi 6 voitures. Hein. Bon, mais je crois qu'effectivement, la loi, de toute façon, tu as peut-être raison sur le plan pratique.
Du fait
mais
qu'il y ait plusieurs propriétaires, pas... c'est ça que je veux dire. Ah, avant qu'un propriétaire soit unique, qu'il ait sa place de stationnement et qu'il loue ses chambres, ok, il se débrouille avec sa place de stationnement. Mais là, on va avoir affaire à des propriétaires différents qui demandent leur part différente.
Mais la loi, je crois, c'est le changement d'affectation qu'elle fait générateur. Pas de changement d'affectation. Si tu passes d'une habitation à un restaurant, là, il y a changement. Même d'ailleurs, si tu changes de type de commerce, tu passes d'un commerce de vêtements à un restaurant, boum, tu payes. Mais là, on reste habitation. Dans le cas que tu dis, il n'y a pas de. La loi ne prévoit pas, ne permet pas, même si peut-être que sur le plan pratique, tu as néanmoins raison, ne permet pas de taxer. Oui, André ?
Oui, ce qui me semble important, c'est qu'en mars 2014, on n'était pas loin de renoncer à la dette de Madame Adams pour 15 000 euros. On a un peu insisté, parce que le trésorier père général nous indiquait qu'on pouvait le faire, ces 15 000 euros. Et je me souviens très bien de la délibération, la mise en suspens, et maintenant on renonce à 4 000 euros seulement, ce qui est, à mon avis, un grand progrès.
Merci André pour ces encouragements. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Non ? Sur ces deux points, donc, des mesures comptables que vient de nous présenter Renaud, je vous propose de les faire voter en même temps s'il n'y a pas de difficulté pour personne. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Aucune. Je vous remercie. Ensuite, Corinne, tu nous parles d'une garantie d'emprunt qu'on va accorder à la Solar pour 33 logements sur le foyer UDAFAM.
Effectivement, la société anonyme d'HLM, le logement Alpes-Rhône-Alpes, dénommé Solar, sollicite la ville pour accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 50% d'un emprunt de 4 837 466 euros contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné à la construction de 33 logements collectifs PLUS dans l'opération Foyer UDAFAM, située 80 boulevard de la Roche-du-Roi à Aix-les-Bains.
Merci Corinne. Est-ce qu'il y a des questions à Corinne sur cette opération que j'imagine vous avez tous bien en tête, bien repéré ? Pas de questions, pas d'opposition ni abstention. Je vous remercie. Michel Frugier, tu nous parles du restaurant de la plage, Michel.
La procédure de passation d'une délégation de service public pour l'exploitation du restaurant de la plage doit être déclarée infructueuse pour absence de candidature. Il est proposé au conseil municipal de déclarer la procédure infructueuse et close.
Merci. Oui, donc vous vous souvenez de cette affaire hein, où on avait lancé une double procédure, une sur une DSP potentielle et une sur une cession de propriété commerciale. Zéro réponse sur la DSP. Donc il faut, pour la bonne forme, clore la procédure de délégation de service public. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions particulières, pas d'opposition ni abstention. Je vous remercie. Claudie Fraisse, tu nous parles de deux dénominations possibles. Pour deux rues de notre
ville. Oui, monsieur le maire.
Alors, deux rues. La première, c'est Chemin des Bichets. La présentation d'un projet de construction qui sera desservi par le chemin privé sans issue à partir du chemin de la Baie, dans sa partie aval de l'avenue Saint-Simon, amène à constituer de nouvelles dénominations de voies pour répondre à l'obligation faite à la commune de gérer les adresses. En outre, ce chemin sera destiné, selon les orientations du PLU, à desservir à l'avenir d'autres constructions. Il est proposé au conseil municipal de dénommer cette voie privée en accord avec son propriétaire, Chemin des Bichets. La deuxième dénomination de voie, c'est la Traboule Roger Bachelard. La famille Bachelard ayant porté à la connaissance de la ville son souhait de voir renommer la liaison entre l'esplanade Léon Grosse et la rue Vaugelas en direction de la rue des Fontaines en Traboule Roger Bachelard. Il est proposé au conseil municipal de retenir cette nouvelle dénomination qui aura pour effet le seul changement d'adresse de l'entrée sous porche de l'immeuble concerné.
Merci Claudie. Merci, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions, Serge?
Oui, je trouve très bien qu'on ait corrigé et rajouté le nom de Roger Bachelard, qui était une personnalité d'Aix très connue. Et donc, comme on vient de le dire, ça facilite aussi le problème pour les facteurs, parce que l'entrée qui est dans la Traboule, tout le monde cherchait avenue d'Annecy où c'était.
D'accord, merci. Pas d'autres remarques ou questions? Pas d'opposition ni abstention à ces deux dénominations? Je vous remercie. On passe aux questions diverses qui nous sont proposées par un certain nombre de nos collègues. Il y en a au total, je crois, 6. La première concerne le stationnement des professionnels de santé. Et c'est Véronique, j'imagine, qui nous la propose.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, nous avons été sollicités par certaines professions de santé qui, lors de leur visite aux patients, ne trouvent pas à stationner. De ce fait, ils sont nombreux à être verbalisés régulièrement, car soit mal garés, soit dépassant l'horaire émis par le ticket horodateur. Nous avons tous besoin que médecins et infirmières libéraux se déplaçant à domicile puissent exercer leur profession de la meilleure façon et certainement pas en tournant dans le quartier pour trouver un emplacement. Nous aimerions que ces professionnels de santé d'Aix-les-Bains puissent bénéficier d'un macaron spécifique, médecin ou IDE en visite, comme il en existe pour d'autres professions, exemple les journalistes.
Super, merci Véronique. Qu'est-ce qu'on peut dire à Véronique en réponse, Marina?
Merci, monsieur le maire. Donc, les professionnels délivrant des soins à domicile auraient des difficultés pour trouver des places de stationnement disponibles. Mais le fait d'octroyer à ces professionnels un titre de stationnement n'apporterait pas forcément de réponse à leurs problèmes. Comme vous le savez, notre ville a une démographie qui est assez importante et dynamique, ce qui est plutôt bon signe, d'ailleurs. Et donc, il y a une pression qui s'exerce sur le stationnement et on note une légère augmentation du trafic chaque année. Donc en 2009, cette pression nous a conduit à réformer notre politique tarifaire, comme vous le savez d'ailleurs, puisque nous avons notamment mis en place différentes zones de stationnement, et notamment dans l'hypercentre-ville, des zones de stationnement limitées à 2 heures. Ce partage des places de stationnement sur voirie passe aujourd'hui inévitablement par un contrôle du dépassement du temps horaire, parce que sinon, si on ne contrôle pas, forcément, les gens vont continuer à stationner plus longtemps sur les places et donc ne vont pas permettre la rotation. C'est cette rotation des véhicules qui permet la dynamisation de nos centres-villes et notamment le soutien au commerce local. Parce que si on ne peut pas se garer devant nos commerces, on s'en va. Donc le système dit des macarons a été remplacé depuis plusieurs années par des systèmes et des tarifications différenciées selon les usagers. Ainsi, nos professionnels ont des tarifications adaptées. Ils peuvent en effet bénéficier d'un tarif dit professionnel sur la base d'un abonnement annuel ou d'un tarif dit service à domicile qui peut être porté par un système dont vous avez peut-être entendu parler, le système PIAF. Donc le détail de ces tarifs est inscrit au catalogue de la ville et a fait l'objet d'une délibération. Alors peut-être par contre faut-il qu'on recommunique vis-à-vis des personnels de santé pour qu'ils soient bien informés de ce dispositif. Enfin, le stationnement gênant sur les trottoirs, sur les passages piétons ou sur les places réservées aux personnes handicapées ne peut être en aucun cas toléré, donc de ce fait fait l'objet de verbalisation. Conformément au code de la route et conformément à notre souhait de préserver ces espaces de circulation pour un confort d'usage. Merci.
Oui, c'est vrai que c'est pas facile hein, pour tous les professionnels qui interviennent comme ça sur quelques minutes dans tel coin puis qui reprennent leur voiture, qui doivent se regarer. Bon. J'ai eu encore un courrier là tout à l'heure d'une infirmière justement qui a pris, elle était garée sur un passage clouté je crois, là elle a pris cher, donc bon voilà, on essaye d'adapter mais c'est le partage de la ville et de son stationnement n'est pas évident. Merci Marina, merci Véronique. Alors, une nouvelle question, je ne sais pas si c'est Véronique aussi, sur les toilettes publiques pas, cette fois.
Oui, c'est peut-être un petit détail, mais enfin, nous avons une population importante de curistes et de touristes. Et lors de leurs visites, de courses, etc. dans notre ville, beaucoup se plaignent de ne pas trouver de toilettes publiques. Pourquoi ne pas ouvrir au terme où d'ailleurs se trouve l'Office du tourisme des toilettes publiques propres et gratuites?
Alors, Thibault, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les toilettes publiques?
Notre ville comporte 20 sites publics, offrant au total 28 urinoirs et 43 toilettes.
Je te remercie. Ça, c'est important.
Ce qui est important, c'est que ça représente une offre bien supérieure aux équipements généralement observés dans les autres villes touristiques. Et je le souligne, un coût important pour nos services. Certains équipements sont vieillissants et d'autres mériteraient une signalisation adaptée. C'est pourquoi notre ville a d'ores et déjà engagé une réflexion sur la modernisation du parc de toilettes, en rationalisant leur implantation, en modernisant ces équipements et en assurant une maintenance. Cette réflexion a été intégrée dans la démarche de consultation pour contracter un marché de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire afin de bénéficier d'un financement maximal pour l'investissement et pour leur maintenance à partir de la ressource générée par la publicité. Dans ce contexte, et au vu du résultat de cette consultation, le programme de renouvellement du parc des toilettes publiques pourra être engagé en 2016 avec la fermeture de certains sites, la requalification ou le repositionnement d'autres sites. Nous obtiendrons alors une qualité de service supérieure à celle que nous connaissons aujourd'hui. L'ouverture des toilettes des thermes au public ne paraît pas être une solution très pertinente, compte tenu de la limitation des accès du bâtiment, de la nature des équipements non destinés à un usage public et du renforcement des mesures de sécurité publique. On peut en plus noter qu'il existe dans ce secteur de cœur de ville, dans un proche périmètre, les toilettes publiques du parking de l'hôtel de ville qui sont totalement publiques et ouvertes même aux non-utilisateurs du parking, ainsi que la colonne JC Decaux qui est à l'entrée du parc de Verdure. J'ajoute un mot pour dire que dans ce secteur également et dans le plan que nous allons mettre en œuvre, les toilettes publiques du parc des thermes vont être complètement rénovées.
Merci Thibault. C'est une bonne question. C'est des choses qui... Ça fait sourire, bien sûr, mais c'est des choses qui sont malgré tout importantes. La difficulté, c'est pas tellement le nombre, mais c'est la... Il n'y a pas de débat, Serge, sur les questions diverses.
Ce n'est pas un débat. Je voulais remplacer Boileau, notre cher regretté Boileau. Simplement pour dire que quand même, c'est une étude qui est vieille, parce que n'était-ce pas Vespasien qui avait fait les premières Vespasiennes? Les Romains.
Bravo. Non, je voulais juste te dire que la question, c'est surtout pour nous la question de l'entretien, de la propreté de ces espaces publics, où on a des rythmes de passage pour le nettoyage qui sont évidemment programmés à l'avance et qui sont toujours insuffisantes, si je puis dire, selon la délicatesse ou pas des usagers. Voilà. Alors, toujours Serge ou Véronique sur le stationnement devant la gare. Serge.
On va le prendre. Bien que les transports soient une DSP de la CALB, nous... Non, je me trompe, là, ça va. Nous voudrions revenir sur un problème de stationnement auprès de la gare. Ne pourrait-on pas utiliser l'espace des cars, exemple des navettes pour l'aéroport, qui bénéficie d'un espace important mais qui l'occupe de façon très ponctuelle? Peut-être serait-il judicieux de repenser cet espace afin d'installer des bornes d'arrêt limitées pour la dépose et la récupération des voyageurs. Ceci afin d'éviter des bouchons dans le rond-point et le stationnement sur la chaussée de la gare.
Ça aussi, c'est une question un peu récurrente. C'est vrai que l'espace gare est limité, Renaud.
Oui, remarque juste et justifiée, qui n'est effectivement pas nouvelle, comme dit le maire. On pourrait dire, sans faire injure à nos prédécesseurs de l'agglomération, que cet espace n'a sans doute pas été pensé comme il aurait mérité de l'être pour une ville comme la nôtre, une ville santé, ville touristique, et se pose effectivement ce problème du dépose-minute qui n'existe pas vraiment. Pour autant, l'autorisation de stationner que vous suggérez affectée aux transports en commun, qui sont nombreux, conseil départemental, Satobus, et Ondéa, et les taxis, bien sûr, même pour une durée de 10 minutes, conduirait, on peut l'imaginer, à une occupation quasi permanente, parce que ce n'est pas parce qu'on crée l'espace qu'il sera au contraire rempli. Et il a déjà été assez difficile de le limiter aux seuls professionnels qui, eux, au sein de la commission des taxis qui est maintenant présidée par Thibaut Guigue, mais que j'ai connu pendant 6 ans, craignaient pour leur sécurité, que des portières arrachées, etc. Donc, il a fallu sécuriser le travail de ces professionnels, mais aussi de leurs usagers, en fermant l'espace qui leur est dédié, même si il est vrai qu'il est sans doute trop grand. Alors, la mutualisation de l'espace et la répartition dans le temps par nature d'occupant est une idée qui est séduisante, mais qui en pratique est quasiment impossible à mettre en œuvre dans le contexte que nous connaissons à Aix-les-Bains. Alors pour autant, un travail a été engagé depuis plusieurs mois maintenant pour améliorer la rotation des places situées donc au sud du giratoire et en bordure du boulevard, qui pourrait, avec un contrôle assisté, mais bon, assidu, améliorer considérablement la disponibilité. Donc on travaille, pour résumer, à plusieurs hypothèses. On ne pourra pas vraiment créer un dépose-minute, mais mieux favoriser la desserte de la gare.
Cela dit, sans vouloir tout relativiser, parce qu'après, on finit par plus retenir aucune priorité, mais si on réfléchit bien, je ne connais pas beaucoup de gares de centre-ville où, à l'arrivée des massives des passagers, ce ne soit pas un joyeux bazar devant la gare pour le stationnement des voitures. Parce qu'on est tous pareils, on voudrait tous pouvoir stationner quasiment devant. Bon, j'ai en tête plusieurs villes que je ne citerai pas voisines, où on est guère mieux. Et chez nous, en plus, l'espace est quand même physiquement ultra contraint. Donc peut-être tu peux dégager 4-5 places si tu changes un peu l'organisation. Mais je ne pense pas qu'on règle vraiment le sujet. Donc voilà, on essaye d'améliorer. C'est quand même un sujet qui est pas évident. Alors, Véronique ou Serge, toujours sur une question transport. Calbe.
Oui. Bien que les transports soient une DSP de la CALB, nous voulons quand même faire une observation. Malgré les modifications des horaires et des lignes de bus Ondéa, nous nous rendons compte que c'est toujours le même problème, des bus grands et vides dans le centre-ville d'Aix-les-Bains à certaines heures, alors que dans certains quartiers, ils ne sont toujours pas bien desservis. Sera-t-il possible de revoir des horaires et éventuellement les lignes sur Aix ? J'ai vu ça avec Corinne, et c'est vrai que j'avais pas noté le boulevard, mais je pensais au boulevard et le Pic, éventuellement pour aller à la CALB. La CALB, le soir, quand on a des réunions, on peut pas rentrer en bus, en fait. Il n'y en a pas.
Ça, c'est sûr. Oui.
Moi, je suis rentré à pied l'autre jour. J'ai mis 3 quarts d'heure pour rentrer chez moi.
Il n'y a pas un conseiller de la CALB qui vous a...
Je ne demande jamais rien.
Véronique. Corinne, qui connaît le sujet par cœur, puisqu'on a la chance d'avoir la vice-présidente de transport ici.
J'allais répondre à Véronique qu'on va avoir bientôt une application de covoiturage, mais que là, elle pourra covoiturer directement avec certains conseillers. Non. Donc, la délégation de services publics passée par la communauté d'agglomération du lac du Bourget, en resserrant ses conditions budgétaires, a conduit à de profondes modifications du réseau de transport public sur les 17 communes de Grand Lac. La ville d'Aix-les-Bains est desservie par 3 lignes structurantes cadencées à 20 ou 35 minutes qui desservent les principaux pôles générateurs de déplacement, y compris sur des communes limitrophes telles que Grésy-sur-Aix ou Drumettaz-Clarafond. L'essentiel de la consistance du réseau est désormais figé, les kilomètres, les tracés, les heures de conduite, et ce d'autant plus après le vote d'un avenant d'ajustement pour la rentrée scolaire. Sur la durée du contrat, de nouvelles modifications pourront néanmoins être étudiées à budget constant. Des bilans réguliers de fréquentation seront effectués sur toutes les plages horaires afin de déceler d'éventuelles marges de manœuvre. Les livraisons de nouveaux programmes immobiliers, comme par exemple le long du boulevard Le Pic, pourront aussi être prises en compte pour l'évolution des lignes. Je suis à votre disposition pour échanger avec vous sur les pistes d'optimisation que vous seriez en mesure de proposer.
Merci. Ensuite, on passe à 2 questions d'André Jiménez, une sur le respect des élus municipaux et une sur la vente du patrimoine. On commence par celle sur les élus, André.
Oui, question posée par Fatia Brunetti. C'est pour ça que je me permettrai de la lire, pour ne pas trahir ce qu'elle a écrit. Depuis le mois de mars 2014, les élus de la minorité que nous sommes constatons de graves dysfonctionnements dans l'exercice de notre mandat. Nous vous adressons une liste non exhaustive. Petit point 1, les documents pour la préparation des conseils nous sont donnés de plus en plus tard, alors qu'auparavant, nous avions les documents avant la commission des finances. Deuxième point, différentes commissions se tiennent à des horaires inadaptés pour ceux qui travaillent et ne peuvent se libérer. Malgré nos différentes demandes, on nous reproche de ne pas être présents à ces réunions alors que tout est fait pour que nous devions nous excuser. Troisième point, certaines invitations que tous les élus des diverses communes reçoivent, journée des élus, de la foire de Savoie, diverses manifestations associatives, etc., ne nous parviennent pas. certaines facilités ne nous sont pas octroyées alors que les élus de la majorité en bénéficient. Exemple, code d'accès à la mairie que nous possédions lors du précédent mandat et qui nous est refusé actuellement. Carte de parking pour nous rendre aux différentes réunions et commissions alors que certains élus qui perçoivent déjà des indemnités ont cet avantage. Information sur la formation à laquelle chaque élu peut prétendre. Conclusion, il nous semble indispensable que par simple respect pour la démocratie et les exois qui ont souhaité être représentés en nous élisant, vous puissiez, monsieur le maire, revoir ces dysfonctionnements. Il nous serait désagréable d'avoir à nous plaindre à un autre guichet. Et je rajouterai en oral, je sais que ce n'est pas très élégant, mais ça s'est survenu un peu après le dépôt de ça, puisque samedi 26, j'ai reçu une invitation pour le cirque auquel il fallait répondre avant le 22, pour confirmer. Et sur cette invitation... Sur cette invitation, j'ai trouvé très... André Gimnèse, élu municipal de la minorité. Alors j'espère qu'on aura les mêmes places que les autres, que je ne serai pas à côté des lions.
Ça, c'est pas sûr non plus.
C'est pas sûr.
On va peut-être te mettre dans la cage. Alors, Jean-Jacques.
Voilà, donc les éléments de réponse que l'on m'a fournis. L'article 21-21-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que pour les communes de 3500 habitants et plus, le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. Ce délai est strictement respecté, comme le prévoit également l'article 2 de notre règlement intérieur. La convocation est obligatoirement accompagnée d'un rapport de synthèse pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, transmis en même temps. Chaque conseiller municipal est averti par mail dès que les documents sont mis en ligne sur le lien Montcloud. Dans le souci de permettre une bonne information des élus, les documents complémentaires, tels que les délibérations, sont toujours communiqués largement avant le délai réglementaire. Ainsi, pour la séance du 29 juin, les élus ont pu prendre connaissance dès le 18 juin. De même, pour la séance de ce soir, les élus ont pu lire les rapports dès le lundi 21 septembre. Les commissions municipales se réunissent en fin d'après-midi pour préparer la séance de la commission de ce soir. La commission 1 s'est réunie le 22 septembre à 18h30, la commission 2 le 16 septembre à 18h et la commission 3, elle, un petit peu plus tôt, le 14 septembre, mais à 17h. Les invitations auxquelles vous faites allusion quand elles sont connues de la mairie sont toujours répercutées sur l'ensemble des élus par les services du cabinet du maire. Quant aux modalités d'exercice d'un mandat d'élu, toutes les facilités sont octroyées de manière égale à tous les conseillers municipaux. Et enfin, pour finir, si des problèmes subsistaient, il convient d'en saisir l'administration générale.
Merci. Juste deux, trois mots. Ça aussi, hein, c'est des questions récurrentes. Nous faisons en sorte évidemment de respecter la loi. Juste quelques points sur le code d'accès à la mairie. Pourquoi pas vous le redonner? Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Parce que dans les heures ouvrables, la mairie est ouverte et bien sûr vous y avez accès comme vous voulez. Et dans les heures où il n'y a personne dans la mairie, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait venir y faire. Donc je ne vois pas l'intérêt, franchement, du code d'accès. Mais si c'est que ça pour vous satisfaire, il n'y a pas de problème. Sur les horaires des commissions, c'est pareil, c'est un sujet récurrent. Tout est fait pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse venir. On a aussi nos techniciens qui ont aussi une vie personnelle et dont on essaye de tenir compte dans les horaires de convocation. Enfin, si vous me permettez, de manière un peu perfide, je ne sais pas si les documents vous arrivent trop tard, mais moi ce que je constate, c'est que souvent les questions diverses nous arrivent en dehors des délais qui sont fixés par notre règlement intérieur. Donc voilà, je pense qu'on là-dessus, il me semble qu'on respecte la loi et que tout le monde essaye de respecter nos propres règlements et je vous assure que ça ira super bien. André, il y a une autre question sur la vente du patrimoine.
Je ferai part donc la réponse à Fatia Brunetti, oui, comme il se doit. Pour la vente du patrimoine, nous arrivons au quart de notre mandat et nous sommes surpris à chaque conseil municipal de voir le nombre de ventes auxquelles la municipalité procède. À ce rythme-là, il est probable que nous n'aurons plus rien à l'horizon 2020 en fin de ce mandat à vendre. Si bien sûr de l'argent frais rentre dans les caisses, il est à craindre que cette méthode ne soit pas un projet de ville capable d'assurer la pérennité de nos finances et surtout la prospérité de la ville. Nous devons nous pencher très vite sur un véritable projet phare capable de ramener sur Aix les curistes et les touristes qui nous ont quittés. Sauf si nous trouvons dans les anciens termes une attractivité attractive au niveau national, voire mondial, il faudra bien réétudier ce projet de liaison par tram à crémaillère, lac, ville, revers, seul capable, à notre avis, de donner à l'agglomération un nouveau souffle. Et je pense que c'est un projet qui pourrait effectivement réunir les quatre groupes qui sont là présents ce soir dans la salle.
Merci André. Marie-Pierre.
Alors, la commune cède des biens dans le cadre d'une rationalisation de son patrimoine. Une rationalisation qui a été développée et suivie par un comité stratégie immobilière qui a été mis en place très tôt en 2014. Le patrimoine communal est en effet très important, 200 bâtiments qui représentent 180 000 m² de surface, loin devant les valeurs moyennes de référence des villes de notre strate. Dans un contexte de raréfaction des ressources, donc on vous en parle régulièrement, avec le plan 4 millions d'euros et notre groupe aussi Projet Énergie, ce comité stratégie immobilière est l'élément décisif pour passer ces années difficiles marquées par la diminution brutale des dotations de l'État que la ville subit et également les autres communes. Concrètement, les cessions de biens qui n'ont plus d'intérêt évitent en effet de lourdes charges d'entretien ou de réparation à venir. Si la ville se dessaisit d'éléments inappropriés à son fonctionnement, elle enrichit en même temps son patrimoine de locaux neufs, fonctionnels et performants sur le plan énergétique, comme ceux achetés dernièrement dans le bâtiment A de l'îlot D, dans le cadre de la rénovation urbaine, où 200 m² vont être mis à disposition de la mission locale jeune, 100 m² pour une association de quartier, 100 m² pour le service politique de la ville, et ceci pour un montant global de plus de 700 000 euros. Je vous rappelle enfin que ce plan a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal au mois de juin 2015, indiquant que les recettes de ces ventes, qui sont estimées à 6 millions d'euros sur les trois prochaines années, contribueraient à financer l'acquisition de nos espaces futurs dans les termes anciens réaménagés.
Merci Marie. Deux ou trois remarques à mon tour. Le projet de train à crémaillère, c'est pareil, c'est un vieux sujet ici. André, vous dites que ça pourrait nous réunir. Certainement pas. Aujourd'hui, la facture est entre 150 et 200 millions d'euros. Il n'y a pas un d'entre nous qui peut sérieusement imaginer de faire financer cette opération sur fonds publics. Pas un seul. Donc non seulement ça ne va pas nous réunir, mais ça va nous diviser profondément. Donc il faut savoir de quoi on parle. C'est un rêve superbe. Je l'ai partagé pendant suffisamment d'années pour dire ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un relais, je ne crois pas, encore peut-être un petit espoir, mais s'il n'y a pas un relais massif d'investissement privé sur ce projet, il ne se fera jamais. Donc ça c'est le premier point. Il y a une étude là-dessus, il faudrait qu'on vous la communique, hein, qu'on a fait dans le mandat précédent, elle n'est pas très ancienne, qui dit que la seule manière de rentabiliser une liaison de ce type, c'était de fermer la route du Revard. On le fait ? On ferme la route ? Bon. Donc voilà, si vous voulez, il y a quand même des petits sujets. Et puis après, sur la cession du patrimoine, j'en ai tellement entendu sur ce sujet depuis 15 ans que je suis maire, que je me demande d'ailleurs comment il reste encore du patrimoine, puisque chaque mandat, on me dit, grosso modo, dans 2 ans, il n'y aura plus rien. Bon, ça fait quand même 15 ans qu'on continue à en vendre. C'est simplement que on oublie un petit peu, bon, je comprends que ça puisse être intéressant de polémiquer sur le sujet, mais Marie-Pierre a eu raison de vous rappeler que dans ce mandat, on va augmenter notre patrimoine. Puisqu'à la fin du mandat, on aura acheté plus de 5000 m² bâtis, rénové complètement aux normes d'aujourd'hui dans le bâtiment des thermes en face. Donc vous pouvez faire l'addition de tout ce qu'on va vendre dans le mandat en termes de mètres carrés construits et de ce qu'on va racheter et vous verrez qu'on sera positif. Donc voilà, il faut pas simplement se laisser... ce qu'on cède, c'est du patrimoine dont on n'a plus usage. Si on peut sortir de l'estal, ce qu'on va faire au début de l'année prochaine, parce que sans acheter un mètre carré de plus, ça veut dire qu'on avait des mètres carrés vides, plein centre-ville où on réinstalle nos services. Il me semble que c'est quand même plutôt de bonne gestion, surtout quand on sait le gouffre que représente en termes d'entretien au quotidien et de fluide, notamment de chauffage, ces vieux bâtiments comme celui de l'Estal, par exemple. Donc, voilà, je pense qu'il faut être un peu objectif sur ces questions-là. Et je vous propose sur cette dernière question de lever la séance puisque notre ordre du jour est épuisé. Merci à vous.